Édouard Estonnier, Solitude. J'ai rencontré jadis, sur les bords du Léman, un homme qui me parut alors plus original que sage. En ce temps-là déjà, le va-et-vient de touristes internationaux, attirés par les charmes combinés d'une nature frelatée et de caravansérails de tout style, troublait outre mesure le charmant paysage devant lequel nous causions. La nuit, les lumières de la rive continuaient la fête, donnant à l'horizon l'aspect d'un bal public. Pas une minute on n'oubliait donc que ce fut là un lieu de divertissement cosmopolite, et l'idée qu'on pût y chercher la solitude ne m'était jamais venue. Cependant, l'homme dont je parle n'y séjournait qu'à cette fin. Comme je m'étonnais un jour d'une prétention aussi singulière, « Oh, c'est, me dit-il, que vous ignorez au juste ce qu'est la solitude. Elle ne dépend pas de l'extérieur, c'est une chose du dedans. » Voyant ensuite que je ne saisissais pas très bien du bout de sa canne, il traça un cercle autour de lui. « Regardez, poursuivit-il, cette ligne est un symbole. Nous sommes assis sur le même banc. Je parle, vous écoutez. » Mais elle nous sépare, et vous êtes plus loin de moi que la plus lointaine des planètes. C'est cela, la solitude. Avait-il tort ou raison? Que de fois depuis lors est devenu seul à mon tour, me le suis-je demandé. Aujourd'hui encore, cloîtré dans une autre chambre d'hôtel, ayant devant moi non plus le décor fêtard de Montreux, mais l'austère silhouette du Pelvoux, je me pose la même interrogation et ne sais que répondre. Il y a mille manières d'être seul. Il n'est pas sûr non plus qu'on cesse jamais de l'être. On peut étouffer de solitude dans une maison déserte et auprès d'une femme aimée. Le bruit n'est pas moins angoissant que le silence pour qui a connu le vide profond laissé par un départ. Et aille bien regarder. L'homme qui chemine dans la vie avec ou sans compagnon est-il si différent de l'homme qui meurt, c'est-à-dire irrémédiablement seul? J'ai grand peur que la solitude ne soit comme les phénomènes essentiels à l'existence. On la connaît mal, précisément parce qu'elle est toujours présente. De même, combien de temps a-t-il fallu pour songer au rôle de l'air et tenter son analyse? Mais qu'importe de bien ou mal définir un mal qu'on ne peut guérir. Il n'existe pas d'être vivant qui, à une heure ou une autre, n'ait souffert désespérément d'être solitaire, voilà le fait. Il n'existe pas non plus de souffrance aussi impénétrable. Plus elle écrase l'âme, mieux on se tait. Et c'est pourquoi, en matière de solitude, faute d'entendre la plainte de nos pareils, nous estimons toujours notre cas exceptionnel. À de rares intervalles, il m'est arrivé de percevoir l'écho de désespoirs humains. Aussi, avant que j'aie pu creuser les faits, la solitude était chaque fois à la racine. Je dis aussi avant que j'aie pu creuser les faits, car en pareille matière, il est rare qu'on aille bien loin. Très vite, l'indiscret qui regarde se heurte à de l'inexprimé. Entre les autres et lui tombe un rideau derrière lequel la tragédie se passe, mais dont l'étoffe lourde ne permet pas de voir, et tout au plus laisse-t-elle passer les cris. Tel quel, il m'a paru que mes observations pouvaient avoir un intérêt. Les récits qui vont suivre les contiennent, n'ayant pour lien que leur douleur de pareille origine. Après les avoir lus, sans doute concevra-t-on que la solitude crée des souffrances d'autant plus dignes de pitié qu'aucune pitié ne peut les atteindre. Mais toutes ne sont-elles pas ainsi? Et dès que le patient n'est plus nous-mêmes, quelles souffrances avons-nous jamais comprises vraiment? À l'heure où j'écris ces lignes, j'aperçois depuis ma fenêtre un alpiniste et des guides qui s'apprêtent à escalader la Meije. Pauvres gens! Quand ils seront parvenus là-haut, en dépit de tant d'efforts, ils ne connaîtront de la merveille qu'un sentier périlleux. Ils auront risqué leur vie pour n'apercevoir en fin de compte que d'autres cimes et une ceinture d'abîmes empêchant d'y atteindre. À ceux qui prétendraient pénétrer complètement le secret d'un cœur humain, fût-il le plus proche, je dirais volontiers qu'autant vaut, comme ces grimpeurs, partir pour une mèche. À l'arrivée, l'unique récompense qui les attend est aussi la découverte de la ceinture d'abîme les isolant de l'univers. Cependant qu'au-delà, le mystère des âmes peuple l'espace sans l'éclairer. Mademoiselle Gauche. Ceci remonte au temps de ma jeunesse, quand je passais encore les vacances à Vézelay chez mes grands-parents. Tout le monde connaît au moins de nom ce village de Bourgogne, célèbre par son église. Ceint de vieux murs, il semble une frégate échouée sur un récif. Le toit colossal de la basilique dessine le pont. À l'avant, des châtaigniers centenaires dressent leurs mâts armés de voiles vertes. Enfin, accrochés au flanc, les petites fenêtres des maisons ouvrent sur la campagne et par-dessus la bande noire des remparts, des milliers de sabords d'où l'on s'attend à voir jaillir l'éclair d'un coup de cador. L'ensemble est archaïque, grandiose et délicieux. Chaque été, nous revenions dans la maison familiale. Celle-ci existe encore, avec sa tourelle et sa porte en ogive. Elle continue de faire, comme autrefois, l'angle d'une petite place à 200 mètres de la basilique. Mademoiselle Gauche, dont je désire raconter l'histoire, demeurait en face. Qui était au juste Mademoiselle Gauche? Si loin que j'aille dans mes souvenirs, je la revois brodant derrière sa fenêtre au rez-de-chaussée, et je revois aussi près d'elle sa canne à pommeau noir, dont le tapotis tous les soirs, en traversant la rue, annonçait que Mademoiselle Gauche, sa journée terminée, partait s'installer dans sa chambre. Ce que je ne puis décrire comme je le souhaiterais, comme je les retrouve en ce moment, c'est l'extraordinaire expression de Mademoiselle Gauche, son air de grande dame, malgré le bonnet blanc et de petite fille, malgré la gravité, c'est surtout son teint de lait, un teint délicat et pâle, qui suggérait l'idée de la jeunesse, de la fraîcheur, de l'immatériel, de l'éphémère. Mademoiselle Gauche avait peut-être un visage de sainte. Elle était peut-être belle, je ne le sais plus, tant les images que je me fais d'elle et que je récoltais à chaque nouvel été se fondent dans ma mémoire. En revanche, quand je veux imaginer un être hors de la vie et à mi-chemin de l'irréel, j'aperçois aussitôt Mademoiselle Gauche, avec ses joues blanches, brodant des choses blanches, et pareilles à des ailes, deux brides blanches, battant sur ses épaules. Mademoiselle Gauche, qui était infirme, ne sortait jamais, hormis un dimanche sur quatre, pour assister à la messe. Ce jour-là, on la mettait sur un fauteuil et des hommes l'emportaient vers l'église, marchant à pas rythmés mais sans effort. Car elle devait être infiniment légère, aussi légère que les vierges dorées que l'on exhibe aux processions. Mademoiselle Gauche, enfin, était toujours vêtue de la même façon, avec une robe noire et un caraco noir, très étroit, qui soulignait sa maigreur extrême. Les dimanches de sortie, elle changeait seulement son bonnet tuyauté pour une coiffe également noire et ornée de dentelles, si bien que je n'ai jamais aperçu ses cheveux et que j'ignorais toujours s'ils étaient blonds ou blancs. Quel âge pouvait bien avoir Mademoiselle Gauche? Elle me paraissait très vieille quand j'étais petit. Plus tard, elle me parut très jeune. Et sans doute n'avait-elle jamais changé. J'imagine que, lorsque l'être humain n'est plus ainsi qu'une âme aérienne et fluide, Le corps ne s'use plus et demeure seulement pour la parade. Pour un peu, on s'attendrait à le voir s'envoler comme un ballon sous la poussée intérieure. Il ne porte plus, il est porté. Autour de Mademoiselle Gauche, je n'ai jamais vu personne. Était-elle orpheline? Avait-elle des parents? Cachait-elle son infirmité dans un isolement voulu? Ou bien l'avait-on délaissée? Autant de questions sans réponse pour moi. D'ailleurs, les enfants, et j'en étais un en ce temps-là, ne songent guère à ce genre de futilité. Il leur paraît naturel que les choses soient comme elles sont. Ils ont la notion d'un ordre définitif et n'éprouvent pas le besoin de justifier. Telle m'était apparue Mademoiselle Gauche jusqu'à la 12e année, telle je la retrouvais environ 15 ans plus tard, lorsque je revins après la mort de ma grand-mère pour fermer la maison. Mademoiselle Gauche, brodant à sa fenêtre, n'avait pas plus changé que la façade de son logis. Je ne m'en étonnais pas, tant la figure vivante faisait partie du visage de Pierre. Toutefois, ramenant des curiosités d'homme, j'eus cette fois le désir de les satisfaire, et très sommairement, voici ce que j'appris. Jusqu'à 17 ans, Mademoiselle Gauche avait été pareille à la plupart des jeunes filles, c'est-à-dire vive, espiègle et même agréable à regarder. Elle sautait et marchait comme tout le monde. Elle était fille unique. Bien que ni très intelligente, ni particulièrement jolie, à cause de cela peut-être, ses parents l'adoraient. Mais à 17 ans, Mademoiselle Gauche était devenue souffrante. Rien d'abord, des pâles couleurs, un peu de faiblesse, parfois des douleurs dans la moelle. Un beau jour, elle avait été obligée de ne plus sortir. Elle cessa de pouvoir se déplacer ailleurs que sur un sol parfaitement uni. Enfin, elle dut ne plus quitter son fauteuil. Elle avait à ce moment un peu plus de 18 ans, et c'était aux environs de 1850. Alors, désespérée, et bien que leur aisance fût des plus modestes, les parents gauches avaient fait venir des médecins célèbres, consulté des rebouteux, tâté du magnétisme, recouru aux neuvaines. Mademoiselle Gauche restait toujours à la même place. Peu à peu, toutefois, elle prenait le teint de lys dont j'ai parlé et l'air de choses lointaines qui ne devaient plus la quitter. L'un après l'autre, ensuite, les parents gauches étaient morts. Mademoiselle Gauche continua de broder à sa place coutumière. Certains assuraient que l'aisance, ayant fondu au creuset de la médecine, elle avait dû recourir aux viagers. D'autres niaient qu'elle travaillât pour vivre. Peu importe d'ailleurs, puisque Mademoiselle Gauche vivait, c'est qu'elle en avait trouvé le moyen. On ne lui connaissait point d'amis. Elle ne recevait de visite que du clergé une fois l'an. Économie ou indifférence, elle n'était pas abonnée à la croix, ni même à la semaine religieuse. Hormis quelques prospectus, elle ne recevait jamais de courrier. J'écoutais ses propos avec un mélange d'intérêt et de déception. En somme, la réalité ajoutait peu à ce que j'avais imaginé. Il en est presque toujours ainsi, et les perceurs de mystères en sont le plus souvent pour leurs frais. J'ai dit que j'étais revenu à Vézelay pour fermer la maison. La vie moderne se prête mal, en effet, au long séjour à la campagne. Si j'étais résolu de conserver intact le décor où mes premières années avaient connu des heures de liberté uniques, j'avais aussi la conviction qu'après une rapide mise en ordre, je le quitterai sans chance de retour avant longtemps. Je comptais qu'un seul jour suffirait à me servir mes affaires, mais je ne sais quelles difficultés imprévues survinrent et je dus me résigner à passer une nuit dans un logis auquel tant de souvenirs donnait un étrange parfum de mélancolie. Je m'installai par suite au jour tombant dans la chambre du rez-de-chaussée, et semblable pour un soir à Mademoiselle Gauche, presque vis-à-vis d'elle, je regardais la nuit descendre. On n'imagine pas quelle tristesse s'exhale des lieux où des voix chères ont retenti et que la mort a rendu muet. J'étais encore très jeune, plein d'ambition et confiant dans la vie. Raison de plus pour sentir le contraste de mon ardeur agissante et d'un silence des choses qui marque, pour ainsi dire, le terme de tout effort humain. Aussi, ce soir-là, dans cette pièce qui sentait le moisi et dont l'humidité collait au moelle, dans cette absence de tout bruit, tel que le passage d'un rare promeneur ne parvenait pas à l'effacer, j'eus bientôt envie de grelotter. On était en juin, ou à peu près. Volontiers, j'aurais allumé du feu. Malheureusement, la cheminée était vide. Pas trace de bois dans la maison. Je n'avais aussi pour m'éclairer qu'une bougie achetée tout à l'heure chez l'épicier. D'ailleurs, sa lueur était à peu près inutile, car à cette époque, les crépuscules ont des lenteurs d'agonie, et le jour expirant semble se débattre indéfiniment contre la nuit. Soudain, je m'aperçus que la pendule ne marchait pas. Aussitôt, je me levai pour la remonter. Impossible de retrouver la clé. Du coup, la pensée que ce qu'il avait rangé était au cimetière, disparut à jamais, fit refluer dans ma bouche un goût de néant. Je ne sais ce qui me prit ensuite, peut-être de la peur, peut-être un malaise dû à la fatigue. Tout s'était mis à tourner autour de moi. En même temps, j'avais conscience de n'être plus moi-même, mais une loque agitée par un vent déchaîné. Je murmurai « Oh, ben voilà bien une affaire. À défaut de la pendule, j'ai ma montre. » Le son de ma voix était aussi changé. Alors, chancelant, je regagnai la fenêtre et, toujours vis-à-vis de Mademoiselle Gaucher, je m'assis de nouveau, résolu à ne plus penser. Un long moment s'écoula. Après quoi, las de mon étrange panique ou, qui sait, désireux d'un secours, je levai les yeux. Comme à pareille heure, Mademoiselle Gauche était le seul être vivant qu'on pût apercevoir, ce fut aussi sur elle que se posa naturellement mon regard. Seulement, cette fois, elle ne m'apparut plus à la manière habituelle. Tout d'un coup, parce que des circonstances particulières m'y conduisaient, je m'avisai d'une chose qui ne m'avait jamais encore frappé, et je songeais qu'elle aussi était seule. Il faut remarquer tout de suite combien rarement on réalise la vie de ceux qu'on est accoutumé de voir dans une certaine position. Jusqu'à cette minute, j'avais bien été intéressé par l'aspect de Mademoiselle Gauche, son teint de lisse et je ne sais quoi d'immatériel qui émanait d'elle. Jamais je n'avais réfléchi à sa solitude. Or, non seulement aucun être ne l'avait entourée, mais elle devait même être impuissante à rien percevoir du présent. Songez-y. N'ayant abandonné son fauteuil depuis 1850 que pour se faire porter à la basilique, Mademoiselle Gauche n'avait aperçu de sa vie ni une automobile, ni une locomotive, ni un fil de télégraphe, ni une lampe électrique. Par rapport aux hommes de son temps, Mademoiselle Gauche était dans la situation d'un Romain du siècle d'Auguste, ressuscité dans Paris. Mademoiselle Gauche, enfin, aurait mieux fait d'être morte, car les morts, au moins, n'entendent pas, tandis que les bruits extérieurs, persistant à l'atteindre, devait lui rappeler son exclusion des vivants. Devant ma découverte, j'éprouvai aussitôt un remords extraordinaire. Par quelle négligence coupable avais-je toujours dédaigné de rendre visite à Mademoiselle Gauche et délaissé cette délaissée? Aujourd'hui même, n'avais-je pas le plus naturel des prétextes pour revenir sur une conduite aussi absurde, et ne devais-je pas lui annoncer la fermeture de ma maison? Que ce fût-ce là, mes raisons véritables, ou que, plus simplement, j'ai obéi au désir impérieux d'échapper à l'angoisse qui m'oppressait, toujours est-il que, sans hésiter plus, je me levai, pris mon chapeau, et, traversant la rue, allai frapper à sa porte. De ma visite, la seule que j'ai jamais faite à Mademoiselle Gauche, j'ai conservé une impression unique qui suffirait à excuser mon récit. J'arrivais, on l'a vu, bouleversé à la pensée d'une solitude exceptionnelle, désireux de témoigner, d'un seul coup et en bloc, tout l'arriéré de sympathie que j'avais eu le tort de ne pas montrer auparavant. Je trouvais une femme d'une politesse parfaite, qui, s'oubliant elle-même, affectait de ne s'enquérir que de moi et de mes projets. Il y avait en vérité un contraste choquant entre une telle sérénité, fruit de tant d'années solitaires, et mon émoi dû tout compte fait au trouble d'une soirée unique, passée dans une maison déserte. Enfin, étant parvenu à exprimer de mon mieux les sentiments que je souhaitais, j'eus la stupeur de m'entendre répondre. On n'est pas seul quand on a, comme moi, la prière et des souvenirs. Je ne cesse de prier ou de songer au passé. Cela suffit à me distraire. Et ce fut Mademoiselle Gauche, positivement, qui eut l'air de m'offrir sa compassion. J'entends encore les phrases qui suivirent. Je vois le sourire, combien apaisé qui les ponctua. « Quoi, m'écriai-je, le temps vous paraît court et vous n'êtes jamais triste ?»« Non, jamais triste ni gai. » Mais ignorant tout ce qui se passe au-delà de votre croisée et aussi ce qui émeut le cœur de la plupart des femmes, vous n'avez jamais été tenté de vous plaindre ?»« Non, un ciel gris est encore du ciel. Et puis, ne raffinons pas tant sur des choses qui, m'étant imposées, doivent avoir leur raison d'être. » Et j'imaginais pas surtout que je n'éprouve aucun regret. Par exemple, hier, j'ai rêvé que j'étais emporté dans une calèche. Nous descendions, bride abattue, la côte de Saint-Père. L'air me fouettait la figure et j'en étais grisé. Ce n'était, hélas, qu'un rêve. Elle poursuivit, baissant la voix. Je n'ai jamais pu non plus me commander un chapeau chez une modiste convenable. J'aurais bien aimé pourtant avoir sur la tête quelque chose qui fût à la mode quand je sors le dimanche. Vous le voyez, on n'est jamais tout à fait content. Le sort m'a interdit la coquetterie et mes chevaux emballés appartiendront pour toujours à la chimère. Mais déjà, sa mélancolie s'envolait. Elle reprit son sourire et conclut. Qui ne pardonnerait à pareille compagne? S'il est vrai que la chimère donne rarement ce qu'elle a promis, c'est qu'elle est trop fidèle et, ne nous quittant jamais, manque du loisir nécessaire pour aller le chercher. Tels furent très exactement les propos de cette femme, toute sa vie murée dans sa maison comme dans un caveau, sans autre distinction que d'attendre la mort. Une heure à peine de solitude, bien légère, avait suffi pour me glacer. Mademoiselle Gauche, immobilisée sur un fauteuil depuis 40 ans, avait gardé son cœur du froid, et la vie lui semblait bonne. Réalisant la plus effroyable des apparences de solitude, à cause de cela peut-être, elle ignorait la solitude. Lorsque je partis le lendemain, j'échangeai avec Mademoiselle Gauche un salut d'adieu que, malgré ma résolution de ne plus revenir avant longtemps, je ne puis imaginer être le dernier. Ne faisait-elle point partie de Vézelay, au même titre que les arbres de la terrasse, derrière la basilique ou les lierres accrochés aux remparts? On saura plus loin quelle était mon erreur. Après avoir tourné l'angle de la rue, je cessai de voir les fenêtres qui avaient éclairé mon enfance et celle qui, depuis tant d'années, servait d'observatoire à Mademoiselle Gauche. Mon cœur eut un battement de regret involontaire. J'avais conscience de laisser derrière moi deux bonheurs exceptionnels, l'un fait de souvenirs désormais ensevelis, l'autre d'une nature si rare qu'à moins d'un miracle, je n'en retrouverai plus de semblable. Ensuite, je gagnai ma voiture, le cocher fit claquer son fouet, nous partîmes à grande allure. 3 années s'écoulèrent. Fidèle à mes projets, je n'étais pas retourné à Vézelay et n'en avais aucune nouvelle. Puis un jour, je fus avisé par le notaire que de passage à Dijon, il désirait m'entretenir d'une proposition de vente concernant la maison. À l'heure fixée, le bonhomme Riquet se présenta chez moi, nanti d'offres que je refusais tout net, et l'affaire ainsi expédiée, je le retins à déjeuner. Il y a 2 types qui tentent à disparaître dans nos campagnes, le notaire et le médecin. Riquet incarnait encore le premier. Je veux dire qu'il y avait en lui du prêtre qui s'ignore. Son étude lui paraissait un sanctuaire, sa mission plus morale encore que matérielle. Avec cela, ayant dans la cervelle l'histoire entière de ses clients, honnête avec un mélange de candeur et de rouerie, parfaitement discret et de bel appétit. J'appréciais infiniment. Il va de soi qu'au cours du repas, n'ayant rien à traiter qui nous fût personnel, nous parlâmes du pays, ou plutôt des familles dont les archives reposaient à l'étude. Malheureusement, et si passionné que fût mon hôte pour son sujet, je n'y pouvais prêter qu'une attention distraite, car je connaissais à peine les héros en cause. Nous en étions là quand, je ne me rappelle plus à quel propos, le nom de Mademoiselle Gauche vint se jeter à la traverse. Du coup, j'interrompis le récit commencé. Parlez-moi bien vite de cette charmante fille. Est-elle toujours à sa fenêtre? Le visage de Riquet prit une expression navrée. Comment, vous ne savez pas? Mais elle est morte depuis 6 mois. Que dites-vous? Moi, morte misérablement. Et qui pisait, mal remplacé. J'aperçus en même temps dans les yeux de Riquet une lueur d'hostilité qui me surprit. Le nouveau possesseur de la maison gauche avait-il par hasard passé à l'étude rivale? Désireux d'obtenir quelques détails, je poursuivis. Pauvre femme! De l'unique visite que je lui ai rendue, j'avais rapporté une leçon inoubliable. Non seulement elle était une résignée, mais elle se trouvait heureuse et le disait. Voyant que Riquet ne pipait mot, j'insistais. Et comment est arrivée sa fin? Fort mal. Et cette fois, les lèvres de Riquet s'amincirent au point qu'elles avaient l'air de mettre une barre sous les 2 mots pour mieux en souligner la sécheresse. Raison de plus pour m'expliquer, au moins en gros. Riquet leva la tête brusquement. Au fait, oui, cela vaut la peine, et d'ailleurs, je n'ai pas promis de me taire. Voici l'histoire. En février dernier, je reçus un billet de Mademoiselle Gauche qui me priait de passer chez elle en toute urgence. Vous savez où, vous ne savez pas, que de fondation les Gauches et des clients de l'étude. S'ils ont fait beaucoup de bêtises, ce ne fut pas faute de leur crier casse-cou. Encore est-ce à moi, je m'en flatte, qu'après la mort des parents, Mademoiselle Gauche dut de sortir d'une liquidation embrouillée en gardant de quoi vivre. Oh, rien du pactole. 800 francs de rente placés en bonne hypothèque et la maison intacte. Avec cela, quand on a des goûts simples, une femme parvient parfaitement à s'en tirer. Mademoiselle Gauche, qui avait un bon sens pour le reste de la famille, sut fort bien discerner à qui revenait le mérite de sa tranquillité. Sa reconnaissance se manifesta sous forme d'un blanc-seing me permettant de manœuvrer à ma guise. Je ne lui parlais plus jamais d'affaires, mais je la visais pour ordre des choses faites. Je fus donc étonné de sa convocation et supposai qu'il devait se passer quelque chose d'insolite. Aussitôt mon déjeuner fini, je m'empressai de monter la rue, et tout essoufflé, car mon cœur ne va plus depuis quelque temps, je dis « Eh bien, qu'arrive-t-il? Auriez-vous par hasard gagné un gros lot sans m'en prévenir ?» Quel incident extraordinaire fut en effet survenu, cela seul leur éprouvait que Mademoiselle Gauche n'était plus à sa fenêtre, mais se tenait près d'une table, ayant devant elle du papier, un écritoire et une lettre. Quand elle se tourna vers moi, mon étonnement n'eut plus de bornes. À la place de l'air fané de plantes d'appartement qui régnait d'habitude, un bonheur violent s'était installé sur sa face amaigrie. Il rayonnait dans les yeux, dans le port de la tête, jusque dans la façon de s'accoter contre le dossier du fauteuil. Je vous jure que c'était à se demander si elle n'avait pas été guérie subitement, à la suite d'une neuvaine, ou si elle était au contraire victime d'un délire momentané. « Enfin ! » s'écria-t-elle, « vous voici !» Puis, sans me laisser le loisir de répliquer que je croyais en somme n'avoir pas perdu de temps, elle me jette à brûle-pourpoint. « Vous qui connaissez bien la famille et qui avez en vos mains tous nos papiers, savez-vous qui était Claude Latillon ?»« Bon, voici qu'il s'agissait de généalogie. » J'avoue que je fus d'abord désarçonné du rassembler mes sous-esprits. Latillon, attendez donc. Ah, il me semble, oui, que je connais. À quel propos et où ai-je vu ce nom ? Impatiente, Mademoiselle Gauche souffla. Un cousin, paraît-il, du côté de mon père. Parfait, oui, cela me revient. Latillon, créancier de la succession. Ah, ce piètre sire, d'ailleurs, et cousin par alliance. Il avait en ce temps-là un fils, Gabriel. Oh, peu importe le prénom, mais que prétendez-vous faire avec ces gens-là ? Mademoiselle Gaucher secoua les épaules. Oh, tout est donc vrai ? Et me gênant la tête, qui était sur la table, lisez. Ce qu'était le factum, je regrette de ne pouvoir le dire comme il faudrait. Un chef-d'œuvre signé Gabriel Latillon. Oui, un chef-d'œuvre, ni plus ni moins. Le drôle, tout d'abord, en termes respectueux, racontait sa surprise à se découvrir parent de Mademoiselle Gauche. Suivait un couplet sur la famille, le bonheur de ceux qui apprécient à sa valeur l'affection qu'on y peut trouver, puis un portrait plein de compassion de l'état de Mademoiselle Gauche, tel que le bruit public le lui avait rapporté. Enfin, pour conclure, le neveu, car simple parent au début, il devenait neveu aux approches de la signature, donc le neveu demandait permission de venir embrasser sa tante et de passer quelques jours auprès d'elle. Le tout, je ne sais pourquoi, me parut puer l'aventurier d'une lieue. Ce n'était au surplus qu'une impression, et je n'aurais eu ni le pouvoir ni le droit de la justifier. « Qu'en pensez-vous ? » interrogea Mademoiselle Gauche quand j'eus fini. « Admirable, répondis-je, mais pourquoi m'avez-vous dérangé ?»« Pourquoi ? » s'écria-t-elle, « mais il me semble que c'est tout clair. » Pour savoir s'il était sûr que j'eusse un neveu. Oh, un neveu ! Bon, mettons un parent, qu'importe le degré. Elle joignit les mains avec une expression de ravissement. Bref, je n'en suis pas à cela près. Je tentais de l'interrompre, mais elle me fit signe de la laisser parler. Non, Riquet, non, vous ne pouvez pas deviner quelle impression cela me produit. Oh, depuis tant d'années, je m'étais accoutumé à ne plus tenir au reste du monde, à n'écrire à personne, parce que personne ne pouvait s'intéresser à moi. Je me disais, quand on m'enterrera, il n'y aura que la domestique derrière mon cercueil. Je m'en irai seule, toute seule. Et tout à coup, j'apprends que ce n'est pas vrai. Quelqu'un me connaît, va m'aimer, peut-être me regrettera. Cela C'est une chose exquise, inexprimable. J'en aurais dansé de joie sans mes cannes. Remarquez d'ailleurs combien je suis raisonnable. J'ai tenu à m'assurer que ce Gabriel n'inventait rien. Oh non, pas que j'ai douté. Avez-vous senti l'émotion de cette lettre? On n'écrit pas ainsi quand on ment. Tout de même, je n'avais jamais entendu parler de ces latillons, probablement parce que mon père était brouillé avec eux. Alors aussitôt, j'ai songé à vous, j'y pensais. Riquet, lui, sera au courant. Et je vous ai appelé, voilà, merci. Abasourdi, je subissais ce flot de paroles, moins frappé par leur sens que par la voix de Mademoiselle Gauche. De même que le visage, elle avait changé, formant un contraste absurde avec le reste de sa personne. Une voix de 18 ans dans un coffre de 75 ans. Ça devenait touchant et douloureux. Comment, devant une pareille joie, hasarder sans cruauté mes doutes concernant le mobile du sieur Gabriel? Je me bornais à hocher la tête quand elle eut terminé. Alors, vous comptez l'appeler auprès de vous? Elle haussa les épaules, paraissant ne rien comprendre à mon hésitation. Évidemment, c'est déjà fait. Avant même de m'entendre, ah, dans ce cas, alors à quoi mon témoignage devrait-il servir? À me prouver que mon cœur ne s'était pas trompé. Cela n'est-il pas énorme? Énorme, en effet, mais un peu risqué, répondis-je, vexé. Puis, m'étant levé, je lui présentai mes hommages et regagnai l'étude. Après tout, murmurai-je, c'est son affaire, et je n'y puis rien. 5 ou 6 jours plus tard, j'appris que la maison de Mademoiselle Gauche s'était enrichie d'un commensal. Le neveu ne s'était pas fait attendre, il était accouru au premier signe. Naturellement, je ne jugeais pas utile, pendant ce séjour, de revoir Mademoiselle Gaucher. Je ne me suis pas indiscret de ma nature et je me soucie moins encore de venir me mêler aux aventures que je désapprouve. Il y avait ainsi de grandes chances pour que je ne connusse jamais le nouveau venu, quand un matin, ce fut lui qui se présenta chez moi. D'un coup d'œil, je jugeai l'individu. Imaginez un gamin au regard perçant, les cheveux collés sur la peau, le nez en pointe, les tempes ouvertes comme pour recueillir le vent qui passe, enfin, jouant du sourire, c'est-à-dire que ses lèvres minces avaient alternativement l'air de happer une proie et d'offrir des baisers. Avide et cajoleur, des manières de chat et des griffes de bandit, tout ce que la lettre promettait. Il venait, soi-disant, pour me remercier de l'avoir recommandé auprès de sa tante, se répandit en protestations de reconnaissance au sujet de ma gestion des biens de la famille, et pour terminer, laissant entrevoir qu'il serait assez heureux d'en apprendre mieux le détail. Je ne comprends rien à son invite, cela va de soi. Et je le crus parti bredouille, quand j'appris qu'au contraire, il s'en allait après besogne faite. N'avait-il pas aussi interrogé mon imbécile de clerc? Prévoyant mon jeu avant que d'entrer, il s'était déjà fait dire tout ce qu'il désirait connaître, ou peu s'en faut. À savoir qu'il était seul héritier naturel, et que Mademoiselle Gauche n'avait jamais manifesté le désir de léguer sa fortune au curé, ni préparer de testament. 48 heures après, il quittait Vézelay, rassuré sur le sort du magot, et probablement las du rôle. Le même jour également, je résolus de retourner chez Mademoiselle Gauche. Pourquoi une démarche que rien ne semblait exiger? Non, pas même le devoir professionnel. Bon, c'est ainsi. La pensée qu'une de mes clientes était victime de je ne sais quelle escroquerie à la tendresse, et que moi, le conseiller légal, je laisserais la chose aller sans piper mot, m'était proprement insupportable. Je ne cache pas non plus que j'éprouvais une certaine curiosité et désirais savoir quels dégâts avait laissé dans la demeure le passage du jeune loup. J'aperçus ma brodeuse réinstallée à sa fenêtre. Ainsi, les habitudes anciennes étaient déjà reprises. Après le vol par-dessus les nuages, on avait plié ses ailes et gagné terre. Pourtant, mon entrée la fit tressaillir, preuve que, tout en surveillant la rue comme jadis, elle ne m'avait pas vu passer. « Vous ! » s'écria-t-elle, « mais qu'y a-t-il pour vous amener sans être appelé ?» Et je devinais en elle une soudaine appréhension. Il semblait qu'elle fût résolue d'avance à ne pas entendre ce que j'étais pourtant aussi bien résolu à le lui dire. Je répondis d'abord par la formule banale « Comment vous trouvez-vous ? » Elle hésita, ses yeux cernés de noir battirent, puis un seul mot tomba lourd de larmes. « Seul ?»« Ah ! » répliquai-je en affectant la surprise. « Le neveu est parti ?» Elle hocha la tête en signe d'assentiment et répéta « Seul ?» L'accent cette fois me remua profondément. Quelle différence avec la voix d'autre jour, dont la jeunesse frisait le ridicule. « Peste !» repris-je, « je ne vous souhaite pas souvent des visites si tout vous laisse dans un tel état. » Mais elle ne sourit même pas, et seulement au bout d'un instant, soupira encore dans un souffle, et moins pour moi que pour elle-même. Seule, oui. Alors, devant un pareil désespoir, devant cette attitude littéralement écrasée, mes résolutions commencèrent de chanceler. Voilà bien une affaire, il reviendra, n'en doutez pas, vous n'avez qu'à attendre son retour. En effet, oui, mais d'ici là... Et lentement, elle me raconte ensuite le bonheur qu'il lui a donné, cite des mots qui l'ont bouleversé. Ah, le gueux, je vous assure qu'il aurait su l'apprendre. D'ailleurs, avec une femme si peu gâtée, n'est-ce pas, ça ne devait pas être bien difficile. Et puis, avant-hier, une lettre est venue, on le rappelait à Lyon, car il travaille pour vivre. Alors il est reparti, mais jusque à quand? Ici, le flot qui crève. Mademoiselle Gauche, m'interrogeant à travers les sanglots, comme si j'étais capable de fixer la durée d'absence de son neveu. Pour elle, en effet, Gabriel Latillon n'est plus désormais qu'un absent. Sa place normale est ici, dans la maison. Prétendre qu'il est au contraire à peine un passant, et même de moralité douteuse, ajouter à ce désespoir une nouvelle cause mille fois plus douloureuse, est-ce possible, allons? Il n'y avait qu'à s'en aller, comme j'étais venu. Et c'est ce que je fis, non sans avoir offert auparavant de vagues propos consolatifs. Je ne m'avisais point d'expliquer ma venue, pas plus que Mademoiselle Gauche, ni le désir de m'en redemander la raison. Quant à ma conscience professionnelle, il était trop clair, car remplir un prétendu devoir, elle aurait fait beaucoup de mal, sans rien changer à rien. 2 mois environ s'écoulèrent. Lorsque je passais devant la fenêtre de Mademoiselle Gauche, je l'apercevais, comme toujours, installée derrière sa vitre. Toutefois, je remarquais qu'elle ne travaillait pas. Quand je saluais, elle ne répondait pas non plus à mon salut. J'en conclus que sa vue baissait, ce qui, à son âge, n'était pas surprenant. J'avoue que, de mon côté, ma première indignation évaporée, j'avais cessé de penser à l'histoire du petit homme aux lèvres minces. On a tant de choses en tête, même dans une étude de village. Et je me disais aussi... Tout va bien, puisqu'on ne m'appelle pas. Et vous allez voir combien j'avais raison. Puisqu'un soir, vers 7 heures, on vint de nouveau me réclamer en toute hâte de la part de Mademoiselle Gauche. Je me rappelle que c'était à la fin de mars. Une bise vraiment cruelle coupait la figure. Avant de lâcher mon feu et mon dîner, j'y regardais à deux fois. Je partis cependant tout en maugréant, car une sorte d'instinct m'avertissait que le cas devait être vraiment grave. Dès l'arrivée, la domestique me dit « Mademoiselle est couchée depuis plusieurs jours, je ne la trouve pas bien. » « Avez-vous appelé le médecin ?» répliquai-je. « Mademoiselle me l'a défendu. »« Eh, il faut passer outre de pareille volonté. » Et je pénétrai dans la chambre. Mademoiselle Gauche, en effet, n'était plus sur son fauteuil. En me tournant vers le lit, j'aperçus une petite chose si maigre, si perdue au milieu des oreillers, que je doutais si c'était son visage. Non, la domestique n'avait pas tort de s'inquiéter. Je me réservais d'avertir d'office le médecin dont on ne voulait pas, et prenant mon air le plus jovial, je demandai « Mais qu'est-ce qui vous tourmente encore ce soir ?» Il me parut que Mademoiselle Gauche sortait d'un rêve. Ma voix, sans doute, lui produisait déjà l'effet d'un appel lointain. Reprenant assez vite, toutefois, sa netteté d'esprit, elle répondit avec un calme parfait « Je désire que vous me rendiez encore deux derniers services. » « Dernier de trop » m'écriai-je. « Non. D'ailleurs, je suis satisfaite de m'en aller. Vous partez en voyage ?» Elle eut un pâle sourire. « En effet, oui. C'est même le seul qu'il m'aura été permis de faire. Bah, quand on parle ainsi, on est sûr que les malles ne sont pas prêtes. De quoi s'agit-il ? » Première chose, et qui me tient le plus à cœur. Pourriez-vous, en écrivant soit quelqu'un de vos confrères, soit la mairie de Lyon, vous procurer l'adresse de mon neveu ? Je veux avoir mal entendu. L'adresse de Gabriel, ah, ça, mais je rêve. Vous ne la connaissez pas ? Elle dit posément, j'ai peur de ne pas avoir la bonne. Aucune de mes lettres n'a dû lui parvenir, puisque toutes sont sans réponse. « Il ne vous a plus donné signe de vie ?» Et elle répéta du même ton, paisible et ferme, « Non. » Cette fois, je ne pus retenir ma colère et à mi-voix. « Le gredin !» Je n'eus pas plutôt prononcé le mot d'ailleurs que je le regrettais, et que me forçant d'en atténuer la valeur réelle, je poursuivis. « Oh, excusez ma vivacité, je suis si habitué à considérer les hommes sous leur plus vilain angle. » Celui de l'intérêt, qui m'arrive de m'égarer parfois dans mes appréciations. Elle fixa sur moi un regard profond. Vous êtes convaincu, n'est-ce pas, que s'il ne prend même pas la peine de me répondre, c'est qu'il sait parfaitement que, lui ayant promis de l'instituer mon héritier, je tiendrai ma promesse, quoi qu'il arrive. Je voulus nier mes mal. Elle m'interrompit. « C'est probable. Il est possible également qu'il soit tombé malade. En attendant que nous le sachions, passons à l'autre point. Je désire faire tout de suite un testament en faveur de mon neveu. »« Quoi, avant même d'être renseigné ?»«
En tout état de cause. »
Pour le coup, je ne pus dominer mon impatience. « Mais si ce garçon, pourtant... » Mademoiselle Gauche m'arrêta d'un signe de tête. Un instant, elle parut mesurer la douleur que je lui offrais.
« Non, Riquet, déclara-t-elle enfin, cela ne changerait pas mon intention. Cupide ou désintéressé, il m'aurait fait le même mal. De toute façon, j'en meurs. Allons, prenez du papier. »
Je voulus éclaircir le rébus, mais... buté désormais dans son idée.
« Vite, vite, vous me fatiguez !»
Et je dus obéir. En 10 minutes, le projet fut bâclé. Il fallut guider la main de Mademoiselle Gaucher pour faire reposer la signature. Et quand elle eut achevé le dernier paraphe,
Elle ferma les yeux. « Maintenant, soupira-t-elle épuisée, oh, je serai satisfaite d'aller ailleurs. Espérons que j'y serai moins seule. »
5 jours après, le délire l'emportait. « Et voilà, cher monsieur. » Il y eut un petit silence. Il semblait que la tristesse de cette mort fût venue soudain planer autour de nous. « Ainsi, murmurai-je rêveur, Mademoiselle Gauche, qui se croyait si peu seule lorsque j'allais la voir, est morte de solitude. Peuh ! Si telle était sa maladie, avouez qu'elle y a mis le temps. Beaucoup moins que vous ne le croyez, Riquet. » Le silence recommença. J'avais fermé les yeux. J'imaginais l'horreur secrète du drame véritable. Placée longtemps hors du monde, Mademoiselle Gauche ne s'en était même pas aperçue. Et tout à coup, la grande irruption d'une tendresse dans sa vie, l'enivrement de se donner une semaine peut-être de paradis. Et le départ suit, le silence succède. C'est l'attente avec ses menaces, une anxiété qui grandit, bien qu'elle semble sacrilège. Enfin, lentement, le poison qui s'insinue. Si j'avais été dupé, et pourtant l'incertitude que même trompé, mieux valait garder sa primitive illusion pour ne pas rester seul. Ah, il doit être affreux de voir passer ainsi un être humain, si misérable soit-il, dans la maison déserte. Avant sa venue, on pouvait imaginer que les pièces étaient vides. Après, on ne le peut plus. « Vous me croirez, si vous voulez, » reprit Riquet. « Je ne puis me faire sentir le sieur Latillon installé aujourd'hui au lieu et place de Mademoiselle Gauche. Car il y est, le bougre. Il a même eu la prétention de vérifier mes comptes. » Comme le repas était fini, nous nous levâmes et l'on n'en parla plus. Je crois cependant avoir compris ce jour-là que, pour subir l'étreinte de la solitude, il est nécessaire de savoir qu'elle existe. Bénissons le sort qui nous priverait de tout contact avec l'humanité. Il peuplerait l'âme des chimères et interdisant de découvrir combien nous sommes seuls, écarterait de nous la terrible lumière dont un rayon a suffi pour tuer Mademoiselle Gauche.